troisième temps de notre série consacrée à l'histoire des rêves dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous parlerons du rêve de soi au Moyen-Âge et des clés des songes au XVIIe siècle. Après avoir lundi, avec Marc Ferraud, évoqué les rêves de lendemain de victoire au XXe siècle, puis hier raconté dans le documentaire d'Anaïs Quin et de Françoise Camard le travail de Charlotte Bérat qui collecta les rêves sous le Troisième Reich. Vous pouvez d'ailleurs réécouter ce documentaire sur notre site internet. Et avant de nous demander demain ce que la psychanalyse fait à l'histoire, nous plongerons aujourd'hui avec Anaïs Quin, qui a préparé toute cette semaine avec nous, dans l'époque médiévale et l'époque moderne, à la recherche de l'interprétation que les moines et les laïcs, par exemple, du Moyen-Âge finissant, ont eu de ses rêves, et puis également que les hommes et les femmes du XVIIe siècle faisaient de leurs rêves ou de ceux des autres, bref, de la science des rêves. Y avait-il une science des rêves dans ces époques-là? Nous le verrons en compagnie de Gisèle Besson. Elle est maître de conférences de latin classique et médiéval à l'ENS de Lyon. Elle est enseignante à l'École des hautes études en sciences sociales et elle est co-auteur cette année avec Jean-Claude Schmitt de Rêver de soi, les songes autobiographiques au Moyen-Âge aux éditions Anacharsis, et également avec Juliette Lancel, doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du LABEC Aztec, et co-directrice de Clé des songes et Sciences des rêves, publiée l'an dernier aux Belles Lettres. Bonjour Anaïs Quin.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et bonjour à vous Juliette Lancel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bonjour à vous Gisèle Besson.
Bonjour.
Alors si nous commençons avec vous, parce que chronologiquement tout compte fait en tant que spécialiste et ayant publié avec Jean-Claude Schmitt ce livre Rêver de soi, les songes autobiographiques au Moyen-Âge, vous êtes la première dans l'ordre chronologique, pourrait-on dire, de cette émission de ce jour, donc parlant du Moyen-Âge. Il faut peut-être, quand on s'intéresse à la façon dont les contemporains du 11e, 12e, 13e, 14e ou 15e siècle ont parlé de leurs rêves, et bien peut-être aussi s'imaginer qu'il y a des substrats qui remontent à auparavant, et en particulier à toute cette époque grecque et latine, l'époque antique, qui a beaucoup forgé de documents autour de ces rêves, et en particulier les travaux du deuxième siècle après d'Artémidore, au deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc, ces travaux qui s'intéressent justement à la critique des rêves. On peut dire qu'il y a quelque chose qui reste de ce monde antique dans le monde médiéval que vous connaissez bien.
Oui, alors il reste même beaucoup de choses finalement, même si beaucoup a été aussi réinterprété. Disons d'abord que le Moyen-Âge occidental latin pour la langue de culture hérite de deux domaines différents. Il y a le domaine donc proprement gréco-latin et plus particulièrement latin en fait. Le grec se perd assez vite dans le Moyen-Âge occidental et donc seul ce qui est passé en latin aura une importance réelle. Mais comme les pères de l'Église, eux, au tout premier siècle, deuxième, troisième, quatrième siècle après Jésus-Christ, lisaient encore le grec, ils ont fait passer en latin des éléments qui sont effectivement utiles. Et l'autre héritage, c'est l'héritage biblique. Donc il y a deux types d'éléments qui peuvent servir.
Alors il faut peut-être préciser pour nos auditeurs, les songes sont présents dans l'Ancien Testament, beaucoup moins dans le Nouveau Testament, mais ils sont aussi présents dans cet héritage antique. Comment des chrétiens, donc cette Europe occidentale chrétienne, mélange-t-elle ces deux héritages qui sont quand même un peu différents, et comment fait-elle son miel de ces deux héritages autour de la question des rêves, et en particulier des rêves d'avenir, des rêves prémonitoires? Et pas simplement.
Alors, les rêves de l'Ancien Testament, donc comme vous le disiez, il y a peu de choses dans le Nouveau Testament. Les rêves de l'Ancien Testament sont tellement présents et sont tellement la marque de l'arrivée de Dieu parmi les hommes que forcément le Moyen-Âge chrétien reprend cet intérêt pour les rêves, mais le reprend avec une certaine réticence pour l'interprétation, puisque ça c'est peut-être le versant classique gréco-latin, les anciens considéraient qu'il y avait des rêves vrais et des rêves faux. Les chrétiens vont avoir la même idée, mais l'interpréter en disant rêve venant de Dieu et rêve venant du diable. du coup, forcément, l'interprétation des rêves telle qu'elle s'est pratiquée autrefois sera éventuellement suspectée et il ne faudra pas trop utiliser des interprétations douteuses.
Anaïs Kier.
Ce qui est frappant lorsqu'on vous lit Gisèle Besson, c'est la richesse de ce matériau qu'est le rêve, le nombre de textes, le nombre de témoignages, de récits de rêves qui restent encore à disposition aujourd'hui. Et pourtant, ce matériau est problématique en soi. Il est à la fois très porteur d'une proximité avec ses rêveurs et en même temps très traître d'une certaine façon, puisque ses rêves sont faits dans une société tout à fait différente de la nôtre.
Oui, c'est effectivement très difficile. Bon, le corpus est énorme. Nous avions sélectionné quelques exemples de rêves avec cette dimension autobiographique. Si l'on avait voulu traiter du rêve en général, il aurait fallu ajouter des volumes et des volumes, d'autant que rêve, vision et d'autres éléments encore ne se distinguent pas toujours de façon très très claire.
Et ces catégories que vous avez adoptées, j'imagine, sont les catégories aussi de notre temps. Et pas du temps de ses rêveurs.
Oui, il y a des catégories antiques chez Tertullien, chez Augustin, puis plus tard. On entend parler de catégories, effectivement, mais les médiévaux ne mettent pas en pratique dans l'étude ou dans le récit de leurs propres rêves, ils ne mettent pas en pratique ces théories. Donc, théorie d'un côté, récit de rêve de l'autre, sont finalement complètement séparés.
Et d'ailleurs, il faut peut-être préciser pour nos auditeurs que ce terme de rêve n'est pas utilisé à l'époque médiévale, qu'il n'existe pas en tant que tel. C'est plutôt dans le Moyen-Âge tardif et même peut-être encore plus tard, à l'époque moderne, qu'on imposera ce terme de rêve. On parle de songe à cette période-là.
Le terme latin « somnium » qui nous a donné « songe » est effectivement le seul terme qu'on puisse utiliser avec celui de « vision » dont il ne se distingue pas donc toujours de façon très évidente. Et par-dessus le marché, en français en tout cas, il rime avec « mensonge ». On le trouve assez souvent en rime dans des textes en vers. Et donc, le terme est effectivement connoté assez négativement.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu christianisation peut-être de catégories anciennes avec effectivement cette séparation entre rêves venant de Dieu et rêves venant du diable ou des démons. Ce que vous notez avec Jean-Claude Schmitt dans Rêver de soi au Moyen-Âge, qui est ce livre paru aux éditions Anacharsis l'année dernière, c'est justement que les premiers qui nous laissent des témoignages autobiographiques en nombre, pourrait-on dire, sont des religieux et en particulier des moines qui sont obsédés par la question de la présence des démons ou du diable pour certains d'entre eux, et qu'il y a donc chez eux une frayeur permanente. Vous expliquez ça peut-être aussi par le fait qu'ils doivent se lever en pleine nuit, qu'il y a donc un rythme de sommeil qui est très différent des contemporains qu'ils peuvent avoir et qui sont des laïcs en l'occurrence. Et donc ces premiers à noter leurs rêves, à les raconter, à les interpréter aussi et à leur donner une interprétation religieuse sont donc des moines, et surtout à partir du XIe siècle, dites-vous, et de la réforme grégorienne qui secoue la société médiévale de telle manière qu'effectivement il y a un chamboulement de cette société médiévale avec l'arrivée de la réforme grégorienne qui conduira à des nouveaux types de rêves, dites-vous, avec Jean-Claude Schmitt dans ce Rêver de soi au Moyen-Âge.
Oui, alors on a quelques récits de rêves plus anciens, mais c'est effectivement vers le 10e, 11e siècle que le nombre de récits explose et effectivement renvoie assez régulièrement au monde monastique dans lequel l'obsession permanente est celle du salut de l'âme. Et les rêves ont à voir avec l'âme, puisque dans l'anthropologie chrétienne, c'est l'âme qui est en jeu dans les rêves significatifs.
Ah oui, avec les dangers encourus par l'âme dans cette vie nocturne et cette vie inconsciente d'une certaine façon.
Oui, puisque le diable est pensé comme toujours présent, plus ou moins selon les auteurs. Un certain nombre d'auteurs sont absolument obsédés par la présence diabolique, mais tous sont conscients des dangers, effectivement, qu'ils encourent. Et donc, le rêve a à voir avec l'analyse de leur évolution spirituelle.
Mais alors, si on prend cette interprétation-là, le rêve est une visite d'éléments extérieurs dans la nuit, dans le sommeil du rêveur, et pas une production finalement singulière, autonome de celui qui rêve.
Oui, c'est une des dimensions essentielles des différences avec la vision actuelle du rêve. Pour les médiévaux, il s'agit toujours de quelque chose qui est imposé au rêveur, lorsqu'il s'agit de rêves significatifs bien sûr, c'est quelque chose qui est imposé au rêveur de l'extérieur, qui a à voir avec l'état de son âme ou de ses péchés, mais qui lui vient de l'extérieur et qui n'est pas la projection d'un état intérieur.
Et puis, ça n'est pas un rêve souvent personnel, c'est-à-dire que ce que vous expliquez très bien avec Jean-Claude Schmitt dans Rêver de soi chez Anna Carcy, c'est, Gisèle Besson, combien la communauté, alors ça peut être la communauté des moines, la communauté religieuse, la communauté urbaine autour de celui qui rêve, est engagé dans le rêve de celui qui rêve. C'est-à-dire que ce n'est pas un rêve individuel, c'est un rêve collectif.
Oui, là aussi, c'est une grosse différence avec ce que nous voyons maintenant, enfin ce que nous considérons maintenant. Peut-être aussi parce que justement les textes que nous avons sont des textes produits par des religieux en milieu monastique. L'individu est concerné dans son propre statut, dans le statut de son salut, mais l'ensemble de la communauté, voire l'ensemble de l'Église est concerné, et très souvent les rêves sont aussi liés à des inquiétudes sur l'état de l'Église.
Et de ce fait, il y a obligation de raconter ces rêves lorsqu'ils sont signifiants pour la collectivité.
Alors, c'est toujours assez ambigu. Les moines hésitent évidemment à se mettre en avant et à raconter leurs rêves comme s'ils étaient sûrs d'être les destinataires d'une révélation divine. Mais par le biais éventuellement de déguisements assez évidents comme « j'ai entendu quelqu'un raconter que » ou « un moine de ma connaissance a dit que » et voilà, je rapporte ces propos. Il faut effectivement éventuellement les transmettre pour l'entourage.
Et alors, puis pour les déchiffrer, pour donner la possibilité de les déchiffrer et d'y voir peut-être quelque chose qui ressort de son destin, d'un destin commun de cette communauté où le rêve s'est invité chez l'un des membres de cette communauté.
Alors effectivement, les moines qui racontent leurs rêves le font régulièrement suivre d'une interprétation plus ou moins explicite, mais parfois même jusqu'à des attaques personnelles, effectivement, qu'ils évoquent.
Alors, il faut aussi noter, et ça, tous les spécialistes qui travaillent sur la question du rêve, et Juliette Lancel, qui interviendra tout à l'heure, le sait comme vous, Gisèle Besson, c'est que ces rêves sont des instruments pour comprendre ou imaginer l'avenir, et assez peu souvent, mais parfois aussi, pour réfléchir au passé. On a un chamboulement, pourrait-on dire, considérable aux alentours du 18e, 19e siècle, qui va imaginer que le rêve nous parle de notre passé, en particulier de notre passé individuel ou collectif. Alors que dans ces années-là, au Moyen-Âge, au 11e, 12e, 13e siècle, par exemple, Gisèle Besson, le rêve nous parle de ce qui va advenir au bout du compte.
Oui, le rêve parle de l'avenir, et s'il a à voir avec le passé, ce qui arrive aussi chez Guibert de Nogent par exemple, si on rappelle le passé, c'est surtout pour parler des péchés qui vont entraîner éventuellement un risque pour le salut de l'âme. Donc le passé est relu avec le souci de ce que l'avenir apportera aux chrétiens qui doutent évidemment de la possibilité d'être sauvés.
Anaïs Quin.
Et finalement, Gisèle Besson, on peut douter et imaginer que ces récits de rêve finalement ne sont qu'une forme littéraire pour critiquer peut-être une société à laquelle on veut apporter des modifications, ou même parfois pour proposer un nouveau programme de réforme de cette société, c'est-à-dire qu'un rêve serait l'occasion, le prétexte d'avoir ce type de propos, sans forcément que ce rêve ait véritablement existé un jour.
Ça, c'est l'une des énormes difficultés de la constitution du corpus. Nous n'avons évidemment affaire qu'à des récits de rêve. Nous ne touchons pas au rêve lui-même, par définition. Le récit de rêve passe, c'est évident, par des modèles, entre autres des modèles littéraires. On en a quelques bons exemples avec les descendants médiévaux du rêve de Saint Jérôme. Donc oui, il y a forcément un biais dans les récits de rêve, et nous ne pouvons pas exclure que tel ou tel moine ait légèrement fléchi, beaucoup fléchi, voire inventé un rêve pour lui faire dire plus et pour l'inscrire dans la vie de la communauté ou dans la vie de l'Église.
D'autant que, effectivement, ce christianisme occidental est fortement marqué, on l'a dit, par les rêves de l'Ancien Testament, mais aussi par le rêve de Constantin, par exemple, cette idée de la conversion de l'Empire sous l'effet, justement, d'un rêve de celui qui est empereur et qui va convertir l'ensemble de l'Empire au christianisme. Eh bien, ça forge une matrice, pourrait-on dire, Gisèle Besson, qui est très forte pour les contemporains du Moyen-Âge.
Oui, c'est extrêmement fort. On rêve dans sa culture, on rêve avec les images de sa culture. Et effectivement, les clercs et les moines du Moyen-Âge ne peuvent pas rêver sans avoir en tête les modèles à la fois bibliques et littéraires. Alors, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une sincérité profonde, mais les images littéraires, spirituelles peut-être, influent forcément sur la structure des rêves.
Et vous parliez tout à l'heure, Gisèle Besson, d'attaque personnelle. Présenter une proposition ou une critique sous la forme d'un rêve, qu'il soit réel ou non, c'est une manière de se présenter comme n'étant pas mu par des ambitions personnelles ou une volonté personnelle, mais par une volonté supérieure, extérieure, qui suggère un changement ou une critique à l'endroit d'une communauté plus ou moins grande. Vous parlez de l'empereur Constantin Emmanuel. On peut aussi penser à des choses peut-être plus modestes comme un couvent ou un village, évidemment.
Oui, tout à fait. C'est peut-être particulièrement évident dans l'extraordinaire série de rêves de Giraud de Barry, qui est persuadé qu'il est destiné à l'évêché de St. David's au Pays de Galles et qui accumule récit de rêve sur récit de rêve pour démontrer que la volonté évidente de Dieu est de le voir évêque de ce siège.
Donc le rêve devient un argument.
Il devient indiscutablement un argument.
Cinquième vision et explication de la vision de Giraud de Barry. Et encore, voici ce qu'il semblait à quelqu'un d'autre arrivant à Ménevie. Il vit Giraud comme assis sur un grand arbre au milieu de la ville, près de la croix, et le peuple tout entier assis sous l'arbre, fixant les yeux sur Giraud comme son pasteur, pendant qu'il donnait à tous des avertissements et les instruisait avec des paroles pleines d'exhortation. Cela aussi peut se rapporter à l'espoir que tous, sans exception, avaient conçu de son élévation, ou plutôt au pouvoir sur la communauté chrétienne et à la gestion de l'église de Ménevie, à lui confiée par le pape. Il se rêve effectivement en évêque, c'est ça qui est assez extraordinaire. Il se projette dans un poste qu'il n'a pas.
Absolument, et qu'il n'aura jamais malgré tous ses efforts. Non seulement il se projette, mais il raconte des récits de rêves de toute la communauté autour de lui qui aurait rêvé qu'il sera évêque.
C'est ça qui est frappant, c'est qu'on raconte ses propres rêves, mais on raconte aussi les rêves des autres.
Oui.
Dans certains cas, et nous les avons gardés malgré tout, puisque la série était extraordinaire, alors que nous avons privilégié les rêves de soi rêvés par soi-même, dans le cas de Giraud, effectivement, c'est toute la communauté dont il espère que les rêves lui apportent le soutien.
Mais qu'en est-il du cauchemar? Quand on lit, par exemple, Othello de Saint-Emeran, qui dit « Je me réveillais, sentant mes joues encore humides des larmes que j'avais répandues. Je restais figé par une profonde stupeur, réfléchissant à ce qu'était cette vision, me demandant si elle venait de Dieu qui m'avertissait par des rêves, comme il l'avait déjà fait parfois auparavant, ou si elle venait du diable qui cherchait à me tromper par des images fantasmagoriques. » On est réveillé en sueur, en l'occurrence, et on ne sait pas ce que signifie ce qu'on a eu comme vision pendant sa nuit ou pendant son sommeil. C'est terrible. Et puis quand on pense effectivement à un autre qui fait partie de ce recueil que vous avez constitué avec Jean-Claude Schmitt pour Anacharsis, Richalm de Schoenthal, qui lui voit des diables partout, des démons partout, et qui imagine son monastère entièrement peuplé de démons qu'il lui faut combattre, on se dit mais quelle existence terrible ils avaient et combien ils étaient angoissés.
Oui, alors de fait, en latin, on n'a pas de mot pour désigner le cauchemar, donc il n'est jamais explicitement présenté comme différent d'un autre rêve.
On le voit naître plutôt sous la plume, par exemple, de Rabelais un peu plus
voilà,
tard.
Voilà, il faut attendre effectivement, il faut attendre pour avoir un terme qui l'isole spécifiquement. Mais beaucoup de ces rêves, je dirais presque une majorité de ces rêves, sont des rêves effrayants. Et dans certains cas, effectivement, avec une sensation physique redoutable.
Anaïs Quien.
Gisèle Besson, on peut peut-être aussi se poser la question, plutôt que la véracité finalement du contenu de ces textes, de ces récits de rêves, de qui est autorisé à les interpréter et qui est autorisé à les restituer, ces rêves. Cela peut-être nous donne un élément plus décisif sur le rôle qu'on tente de faire jouer à ces récits de rêves.
Alors effectivement, les textes que nous avons sont des textes écrits par des religieux. Et c'est dans le cadre du monastère que cette interprétation est proposée. Et pour les textes que nous avons sélectionnés, c'est le rêveur lui-même qui se sent autorisé à les expliciter, surtout s'ils doivent transmettre un message à la communauté ou à l'Église.
Ce qui est absolument passionnant en vous lisant dans ce livre Rêver de soi chez Anna Karsis, avec ces textes que vous avez réunis, traduits et présentés avec Jean-Claude Schmitt, Gisèle Besson, c'est qu'il y a une historicité de ces rêves. Vous expliquez bien qu'effectivement le 11e et la réforme grégorienne changent les choses, mais aussi que l'arrivée des ordres mendiants, que ces franciscains, ces dominicains qui courent la ville n'ont pas les mêmes rêves que ceux qui précédaient, alors qu'ils étaient enfermés dans leur propre monastère, et puis que l'arrivée de la langue vernaculaire change aussi des choses, que l'arrivée des laïcs qui se confient eux-mêmes dans des textes qui confient leurs propres rêves change quelque chose par rapport à ce qui a précédé et à cette vision monacale ou monastique du rêve et du cauchemar. Tout cela, c'est une évolution, ça n'est pas figé, ce Moyen-Âge, autour de cette question des rêves.
Non, il y a effectivement une évolution qu'on peut voir dans l'ensemble de la société et qu'on peut voir en particulier dans les personnages qui s'autorisent à raconter des rêves. On n'a pas de laïcs du tout au début, on a des laïcs vers la fin du Moyen-Âge et des rêves peut-être touchant plus directement la personne elle-même et la famille.
Ça rejoint le travail qu'avait mené Jean-Claude Schmitt sur la naissance de l'anniversaire, de l'individu à la toute fin du Moyen-Âge, la façon dont il se distingue progressivement de la communauté. Anaïs Quien.
Et pourtant, Gisèle Besson, on peine un petit peu à avoir des rêves en série. Un parcours de vie où une personne nous livrerait ses rêves régulièrement, remarquables ou non finalement, qui nous permettrait de saisir un parcours singulier de rêve au cours d'une vie qu'elle traverse de grands événements historiques ou non. C'est peut-être là la difficulté de cet objet historique.
Aucun de ces auteurs ne livre, sauf Giraud de Barry, une très longue série de rêves. L'interprétation est toujours difficile et interpréter ses propres rêves, raconter ses propres rêves longuement, c'est se mettre en avant d'une manière que les moines considèrent comme déplacée. Donc, on ne peut le faire qu'avec une certaine mesure, à des moments clés, ceux qui ont vraiment une importance essentielle dans le parcours spirituel. Et Claude Saint-Emrand, de ce point de vue-là, est assez évocateur.
Vous évoquiez tout à l'heure la naissance du cauchemar. Eh bien, Hérode, dans ce texte donc qui sert à l'opéra de Berlioz, dit « Toujours ce rêve, encore cet enfant qui doit me détrôner et ne savoir que croire de ce présage menaçant ».
Thank you. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Une interprétation donc du rêve d'Hérode par Berlioz dans une interprétation de José Van Damme avec l'Opéra de Lyon. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire dans une série consacrée à l'histoire du rêve. Nous sommes en compagnie de Gisèle Besson, de Juliette Lancel et d'Anaïs Quien de La Fabrique de l'Histoire pour évoquer la question du rêve à l'époque médiévale et à l'époque moderne. Si on s'approche de votre période qui est plutôt le 17e-18e siècle, Juliette Lancel, eh bien on se dit qu'il y a sûrement beaucoup de reste ce que vient de nous décrire très précisément Gisèle Besson de ses rêves médiévaux. On est encore dans une période chrétienne où la chrétienté est encore triomphante, mais il y a des nouveautés aussi, puisque nous avons bien historicisé la question des rêves depuis le début de cette émission. Des nouveautés, peut-être la naissance du cartésianisme, peut-être la naissance de cette idée qu'on peut penser par soi-même au milieu d'une société qui peut être chrétienne, la naissance du doute, les questions de querelles religieuses entrent-elles en ligne de compte quand on interprète les rêves à l'époque du grand siècle, par exemple?
Bien sûr. C'est quelque chose de vraiment très important sur cette période, dans le sens où il y a un glissement qui s'opère, puisqu'on passe d'un rapport très important au rêve, où le rêve va être très clairement un message divin, qui va informer le rêveur de son avenir, par exemple, dans Les Clés des Songes, dans l'oniromancie. Et à partir de là, on va avoir de plus en plus, au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, surtout l'idée que le rêve peut être aussi un phénomène purement endogène, qui va uniquement l'informer sur lui-même, en fait, et ne pas avoir de signification.
Oniromancie, il faut peut-être préciser à nos auditeurs ce que vous entendez par là, et ce qu'entendaient ceux qui l'a pratiqué, c'est cette question des clés des songes, même si c'est une invention plutôt développée au XIXe siècle, pour parler de ces textes des époques médiévales et modernes. Qu'est-ce que sont ces clés des songes, et en quoi sont-ils importants pour parler de cette question du rêve à l'époque moderne?
Alors, les clés des songes sont tout simplement des traités d'interprétation des rêves, qui vont expliquer de manière assez pédagogique, en fait, à la fois ce que sont les rêves, mais aussi comment les interpréter pour fournir une grille de lecture, en expliquant par exemple que si vous avez rêvé d'un dragon, eh bien vous allez soit rencontrer un personnage puissant, soit obtenir de nombreuses richesses, et également apprendre à faire la distinction entre des rêves faux et des rêves véritables. Donc il y a toute une typologie, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment essentiel parce que il est toujours précisé que tous les rêves ne sont pas prémonitoires. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à faire la distinction.
Et on imagine que tout cela ne se passe pas sans heurts, Juliette Lancel, que cette nouvelle interprétation des rêves, qui ne se fait pas évidemment de manière brutale et déclarée en place publique pour changer brutalement les choses, que cela ne se fait pas sans controverse et sans discussion autour de cette interprétation de cette vie nocturne.
Absolument, il y a de nombreux débats qui s'opèrent, notamment à travers des philosophes comme François de Lamothe Levaillère, qui est un philosophe libertin sceptique, et qui va remettre en cause le rêve prémonitoire.
Donc là, on sort de la maison des religieux, on sort du couvent pour évoquer les rêves.
Oui, de toute façon, dans la mesure, de manière générale, il y a un problème, c'est un peu compliqué la question de l'Église à l'époque moderne, le rapport de l'Église aux rêves, dans le sens où, pour les clés des songes, les rêves disent le futur, mais dans une approche quand même laïque, et ça pourrait se rapprocher de la divination. Et il y a quand même
une condamnation de la divination.
Absolument, il y a une condamnation de la divination. Et alors, un changement qui est vraiment très représentatif de ce glissement, c'est l'édit de 1685, où on demande aux charlatans de quitter le royaume. Et donc, les devins sont plus présentés justement comme ayant un rapport au surnaturel, mais comme des charlatans. Et là, ça, c'est représentatif, ça montre qu'on ne peut pas considérer le rêve comme un message surnaturel, mais plutôt comme une escroquerie.
Oui, et ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'effectivement, on pointe, et beaucoup de penseurs de ce grand siècle en particulier, pointent le paradoxe de cette question-là, parce que on se dit, voilà une illusion, puisqu'on est endormi et on a un rêve qui advient. Et cette illusion, on veut lui donner, on veut qu'elle soit porteuse d'une vérité. Comment peut-on être à la fois illusion et vérité à venir? Tout cela, ça pose des questions à tous ceux qui réfléchissent dans ce grand siècle et peut-être même auparavant.
Ça, c'est la grande question que pose Michel Foucault, et on est vraiment confronté à ça, effectivement. Pour tout dire, le rêve est présenté vraiment comme quelque chose qui peut être porteur de vérité pour les auteurs de Clé des songes, donc les oniromanciens qui prédisent l'avenir
et qui interprètent les rêves
dans ces Clés des songes. Et pour eux, effectivement, le rêve est une illusion, mais qui prédit l'avenir, en fait. Et donc, qui, à travers ces grilles de lecture, informe le rêveur de ce qui va lui arriver. Et dans ce sens, en fait, plus le rêveur est détaché de ses sens, en fait, de l'odorat, du toucher, de l'ouïe, et plus il va être à même de percevoir un message surnaturel, un message divin.
Ça, c'est très étrange. Anaïs.
Et en même temps, c'est aussi... Il y a quelque chose qui m'intrigue là-dedans. C'est aussi un moment où... où finalement le rêveur ne peine à se contrôler lui-même et à contrôler ses pensées et sa résistance aux tentations ou à la corruption de son esprit. Il est à la fois apte à recevoir un message parce qu'il est fragilisé d'une certaine façon, mais il manque aussi de contrôle sur lui-même, et ça, la réforme va peut-être avoir quelque chose à dire là-dessus.
Alors c'est un débat qu'on va retrouver assez régulièrement là, à travers la question du rêve érotique, dans le sens où finalement, qu'est-ce qu'un rêve érotique? Si c'est un message qui est à même d'être interprété, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. C'est un message qui peut venir de Dieu, il n'est pas interprété comme quelque chose de coupable. Il n'y a aucune culpabilité à rêver, mais c'est un message qui doit être interprété. En revanche, justement, des gens qui critiquent le rêve prémonitoire, comme Lamotte Le Bayer, disent que le fait de rêver qu'on couche avec sa mère, ce qui est interprété en général comme le fait de conquérir la terre, par exemple, pour Alexandre, Lamotte Le Bayer, il explique que jamais Dieu n'aurait permis une telle chose, et il aurait choisi un autre moyen pour faire passer son message, parce qu'il n'aurait pas permis, je cite, de rendre son imagination criminelle.
Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est que vous expliquez bien dans vos travaux, Juliette Lancel, combien l'historien a intérêt à s'intéresser à cette question des clés des songes, à cette classification, parce que effectivement, ces clés des songes sont très variées. Il y en a qui proviennent de l'Antiquité, d'autres qui proviennent des espaces du Moyen-Orient, par exemple, d'autres qui viennent du monde arabe et du monde musulman. Et donc, chacun, dans la société occidentale du XVIIe, XVIIIe siècle, en traduit un bout, les recompose. Et dans ces recompositions, on peut voir aussi les recompositions de l'imaginaire commun, et même pas commun, puisque vous expliquez bien qu'il y a d'un côté des savants qui lisent des traités des songes en latin, d'autres qui sont des ouvrages pour la cour ou pour les nobles, parce que c'est divertissant, on s'en amuse, etc. Et les troisièmes, ce sont les livres du genre de la Bibliothèque Bleue, fabriqués à Troyes par Oudot et Garnier, qui, eux, sont pour le populaire et qui sont là pour pouvoir donner des clés des songes à tous ceux qui savent lire ou qui peuvent se faire lire ces petits livres de la Bibliothèque Bleue. Et vous dites, effectivement, qu'il y a donc dispersion de ces traités des songes et qu'ils disent quelque chose de ces sociétés en mouvement que sont les sociétés de l'époque moderne, Juliette Lancel.
Les clés des songes sont représentatives de tout un ensemble de normes sociales, par exemple. Il faut les prendre avec beaucoup de prudence, dans la mesure où, effectivement, il y a ce qu'on pourrait appeler un processus de sédimentation qui s'opère. En fait, chaque clé des songes se compose de différentes strates de savoir, qui chacune est représentative de son époque. Il y a un savoir qui s'accumule comme ça, de manière générale, et qui s'accumule aussi à travers tout un ensemble de représentations et de normes sociales. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à en dire, puisque pour les clés des songes de ma période, au XVIIe siècle par exemple, un roi ne va pas rêver comme ses sujets. Et un homme ne rêvera pas comme une femme. Et d'ailleurs, le petit peuple, en fait, il est dit précisément que le bas peuple n'est même pas capable d'avoir des rêves prémonitoires, hein, parce qu'il est capable que de rêver ce qu'il a pensé le jour.
Ah oui, donc il y a une vision presque classiste du rêve dans ces traités des songes, pourrait-on dire.
Absolument, oui, il y a des normes sociales extrêmement fortes et extrêmement présentes. Et sur la question des femmes, par exemple, le genre est très très marqué et elles sont tout entières dans leur destin de femme, d'épouse, de mère.
On a très peu d'ailleurs, on conserve très peu de récits de rêves de femmes pour ces périodes-là et pour les périodes plus anciennes d'ailleurs, Gisèle Besson et Juliette Lancel.
Alors on peut avoir des rêves de religieuses justement.
On retourne au couvent pour retrouver les rêves.
On retourne au couvent. On peut avoir des rêves de religieuse et sinon on peut en trouver quelques traces dans la correspondance, par exemple, puisqu'il arrive que, par exemple, Madame de Sévigné s'inquiète de sa fille après avoir fait un mauvais rêve, un rêve apporté plutôt néfaste.
Un rêve qui trouble,
oui,
qui continue à troubler dans la vie consciente.
Et c'est là qu'on voit l'évolution, quelque part, justement, de l'évolution qui s'opère à l'époque moderne, puisque autant au début du XVIIe siècle, il était tout à fait normal de s'inquiéter d'un rêve prémonitoire, on pouvait en parler sans aucun problème. Et là, Madame de Sévigné, ensuite, s'en excuse presque, s'en défend, et il devient de moins en moins acceptable socialement de dire qu'on peut croire en ses rêves prémonitoires.
On sait tout de même qu'à la fin du Moyen-Âge, certaines femmes ont noté leurs rêves, Gisèle Besson, et que peut-être un peu plus tôt, même au XIe, quelqu'un ou au XIIe, comme Hildegarde de Bingen, a pu noter aussi ses rêves.
Oui, tout à fait, mais d'abord, Hildegarde particulièrement prend grand soin de signaler qu'il s'agit de vision et pas de rêve, de façon à écarter un premier soupçon. Et d'autre part, dans le cas d'Hildegarde particulièrement, quoiqu'elle ait une certaine autorité, il y a volontiers un contrôle de l'Église et un contrôle masculin derrière toutes les femmes qui rêvent et qui écrivent.
Anaïs Quin.
Vous dites qu'elle indique très précisément que ce sont des visions et non des rêves. Pour ne pas éveiller les soupçons, quels sont les soupçons qui pourraient peser, peut-être particulièrement sur une femme à cet endroit-là du récit du rêve?
Le terme de rêve, je rappelais tout à l'heure que songe et mensonge vont rimer plus tard en français. Le terme de rêve est de toute façon toujours soupçonné. Quand un rêveur raconte son rêve, il prend toujours bien garde de donner tous les signes positifs pour éviter qu'on imagine qu'il ne soit visité par le diable. Et dans le cas d'Hildegarde, effectivement, elle précise que ce sont des visions, terme qui est positif.
Alors, une des particularités de votre XVIIe siècle, Juliette Lancel, par rapport aux périodes précédentes, peut-être, c'est un intérêt porté, et vous l'avez noté dans un article, entre autres, un intérêt porté à d'autres clés des songes que les clés des songes occidentales, et en particulier à une clé des songes arabe qui a été traduite par Pierre Vattier, donc à la fin du XVIIe siècle. Pierre Vattier était celui qui tenait la chaire d'arabe au Collège Royal. On ne sait pas très bien comment il a appris l'arabe, dites-vous, mais enfin, il l'a appris et il a été, entre autres, le professeur de Antoine Galland, celui qui va traduire ensuite Les Mille et Une Nuits. Donc, c'est un personnage important. Et ce Pierre Vattier s'amuse, et vous vous en amusez, vous, en tant qu'historienne, s'amuse à traduire ce traité des songes qui remonte à la Syrie médiévale. À le traduire tout en prenant ses distances par rapport à ce qui est dit, mais tout de même à passer son temps à le traduire pour le faire connaître de ses contemporains, ce qui est une ambiguïté particulière.
Oui, c'est une ambiguïté qu'on retrouve beaucoup dans les préfaces des Clés des Songes de cette période, dans le sens où, justement, ces Clés des Songes vont être publiées à travers le prétexte du divertissement. On va plus dire qu'on y croit absolument, mais on va dire qu'on les lit pour se distraire, pour s'amuser. Et Pierre Vattier va publier ce texte à travers à la fois une dimension pédagogique, dans le sens où il le présente aussi pour ses étudiants, comme un moyen d'accéder à la culture arabe, et comme un moyen aussi de découvrir de manière plus précise la langue arabe, et aussi à travers une forme de divertissement. Mais ce qui est tout à fait particulier, c'est que dans cette préface, en même temps, tout en disant qu'il ne croit pas au rêve et en prenant ses distances avec lui, il va tout de même le défendre et finalement convaincre le lecteur que le rêve prémonitoire peut être digne d'intérêt puisqu'il y a une dimension universelle dans ce rêve prémonitoire.
Anaïs Quin.
Et là, on s'inscrit dans une étape importante de la manière dont on considère le rêve pour parler de l'homme, où cet auteur reste un personnage singulier, peut-être un peu à la marge encore à cette époque-là, Juliette Lancel.
Alors, je pense que cet auteur, Pierre Vattier, est plutôt à la marge. Ce qui est intéressant pour nous, en tant qu'historiens, c'est de voir l'évolution de cette Clé des Songes, qui finalement est inspirée elle-même d'Artémidore, qui va ensuite voyager...
Artémidore, auteur du IIe siècle antique.
Absolument, qui va passer ensuite dans la Syrie du XIIe siècle et là être adapté. et ensuite revenir vers nous, vers la France du XVIIe siècle, et à nouveau subir une traduction et une nouvelle adaptation culturelle.
Et vous parliez tout à l'heure des questions érotiques, et effectivement, il y a ces questions érotiques sont centrales dans ce texte traduit par Pierre Vattier au XVIIe siècle, et il doit s'en débrouiller d'une certaine façon, alors même que vous expliquez que ce texte arabe de la Syrie médiévale avait lui-même traficoté le texte d'Artémidor, parce que ça ne leur convenait pas. Dès qu'on parle érotisme et relations sexuelles, eh bien évidemment, il y a des questions sociales qui rentrent en jeu et culturelles.
Absolument. Puisque chez Artémidore, il y a tout un long, très long passage qui parle de relations homosexuelles, même si c'est un anachronisme à parler d'homosexualité, mais en tout cas, il y a des questions de pénétration active, passive, et tout ça, évidemment, pour la Syrie du XIIe siècle, ça pose problème. Donc, les relations homosexuelles vont passer du licite à l'illicite et vont entrer dans la catégorie des rêves considérés comme illicites, comme l'inceste, par exemple. Et au XVIIe siècle, Pierre Vattier va à nouveau opérer une seconde censure dans le sens où il va tout simplement enlever le chapitre sur les rêves érotiques en expliquant que c'est pas très adapté pour les chasses aux oreilles des personnes de son temps.
Oui, c'est vraiment effectivement très intéressant. Et surtout, comment fait-il ce Pierre Vattier pour pouvoir traduire un texte qui, en ouverture, rend hommage à Muhammad dans une France hyper-catholique de la contre-réforme, pourrait-on dire, et du grand roi qui était Louis XIV? Ça doit être assez compliqué.
C'est pas évident, effectivement, mais en même temps, il y a aussi cet intérêt pour la culture arabe. Et puisqu'on est quand même dans les débuts de l'orientalisme, c'est pas du tout l'intérêt qui aura lieu après la traduction des Mille et une Nuits, où effectivement, là, il sera beaucoup plus développé. Mais déjà, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la culture arabe. Vous l'avez dit, les détenteurs de la chaire du Collège Royal, de la chaire d'arabe, en fait, il y en a deux. Donc, il y a vraiment quand même un certain nombre de personnes qui apprennent l'arabe, notamment pour traduire des textes de médecine, pour traduire Avicenne. Pierre Vattier, c'est pour ça qu'il l'a fait, puisqu'il est médecin. Et donc, il y a cet enjeu qui est de comprendre la dimension culturelle des rêves. Après, il va quand même, évidemment, opérer des transmutations en parlant des anges, en parlant des saints, parfois, et donc, en évoluant à ce niveau.
Anaïska.
Puisqu'on aborde beaucoup la question ici de ceux qui se sont autorisés à interpréter les rêves, il faut quand même noter ce destin d'une longueur incroyable du texte d'Artémidore, qu'aujourd'hui encore, on travaille. Donc je rappelle que cet homme a vécu au deuxième siècle de notre ère, Juliette Lancel.
Ah oui, c'est tout à fait curieux. Et justement, dans la mesure, il y a un enjeu tout à fait pratique qui est que c'est la seule clé des songes qui nous soit parvenue en intégralité. Et donc forcément, clé des songes antiques qui nous soit parvenue ensuite et qui soit parvenue, par exemple, aux hommes du XVIIe siècle dans son intégralité. Elle a servi de modèle. Et donc Artémidore est devenue une référence incontournable.
Y compris pour Freud et ses disciples.
Qui a été cité par Freud et ses disciples, oui, tout à fait. Et on sait que Freud a lu des clés des songes, justement.
Il y en a combien des clés des songes, par exemple, au XVIIe siècle qui circulent? On dit plusieurs centaines dans cette période-là.
Alors, c'est difficile à situer précisément parce qu'il y en a beaucoup qui se copient les unes les autres.
Oui.
Donc, il y en a beaucoup qui se ressemblent énormément. Il y a beaucoup de rééditions aussi avec de légères différences. Je pense qu'il y en a, sur la France, il y en a quand même moins, peut-être plutôt, justement, une dizaine d'éléments vraiment très différents, mais ensuite avec une infinité de variantes, c'est surtout ça.
Vous expliquez dans une préface à ce livre que vous avez composé, donc, et dirigé avec Jacqueline Carrois, qui sera notre invitée demain, qui s'appelle Clé des songes et sciences des rêves aux belles lettres. Vous expliquez, Juliette Lancel, qu'il serait intéressant aujourd'hui de faire une histoire croisée de la médecine et de ce que vous appelez l'onirocritique, c'est-à-dire justement de toutes ces traités de sciences des rêves. Pourquoi faudrait-il croiser les deux? Vous évoquiez tout à l'heure le cas de Pierre Vattier, qui était médecin et qui s'intéressait à ces questions-là. Qu'est-ce qui peut nicher derrière cette question du mélange de la médecine traditionnelle, pourrait-on dire, et de la science des rêves?
Eh bien, à l'époque du XVIIe siècle, par exemple, le rêve était très important pour les médecins. Et on considérait, dans une clé des songes, on explique comme une évidence, en fait, que bien sûr, le médecin commence par poser la question à son patient de la manière dont il a rêvé, de ce dont il a rêvé dernièrement, et qu'en fonction des éléments du rêve, il peut prescrire un lavement, il peut prescrire différentes choses, et que par exemple, il y a un lien très fort entre les éléments vus en rêve, l'eau, le feu, la terre, et les humeurs.
Et donc, ça permet de faire de poser un diagnostic pour les médecins de cette époque-là.
Oui, oui, oui. Et depuis l'Antiquité, hein, il y a un lien entre le rêve peut être un élément diagnostique.
Anaïs Quin.
Ce qui est frappant, Gisèle Besson, mais ça s'adresse aussi à vous, Juliette Lancel, c'est la permanence de ces tentatives d'interprétation, même cet acharnement à interpréter qui existe depuis des temps très anciens, et finalement un acharnement qu'on voit bien être toujours vain, d'une certaine façon, Gisèle Besson.
Oui, alors pour le Moyen-Âge, d'autant plus vain que, de fait, nous avons de nombreux textes, alors qui s'appellent plutôt des songes de Daniel que des termes antiques différents.
Le prophète Daniel, donc, qui est supposé avoir écrit un traité des songes.
Voilà, et on le trouve avec toutes sortes de variantes, comme le rappelait aussi Juliette Lancel pour le 17e. Ces clés des songes, nous ne les voyons jamais utilisées et elles n'ont pas, à la différence de celles dont on parlait, de préface ou d'indication sur l'usage qu'on peut en faire. Donc, on a des textes bruts qui sont en général des espèces de dictionnaires. Vous rêvez d'un oiseau, il vous arrivera quelque chose de bon. C'est tout, rien de plus. Mais elles font partie aussi de ce que l'Église condamne le plus violemment, puisque ça renvoie à une interprétation des songes pensée sur le modèle de la divination antique. Et donc, comme c'est condamné, effectivement, on en voit... Il est évident que beaucoup les ont lus, puisqu'on a beaucoup de manuscrits, mais on ne les voit pas utilisés.
Oui, et puis c'est assez formidable pour l'historienne que vous êtes, Juliette Lancel, que ces traités des songes, parce que ils vous disent aussi comment, vous avez écrit un article là-dessus, comment on hiérarchise, par exemple, les sens. C'est-à-dire, est-ce que l'ouïe nous dit quelque chose de différent de ce que nous dit le toucher? Est-ce que le goût nous dit quelque chose de différent de ce que nous dit la vue? Et tout cela, évidemment, ça permet de hiérarchiser l'ouïe et la vue comme étant les deux sens principaux de ces années-là, de ces siècles-là. Et vous dites qu'il y a une ouïe des rêves, comme il y a d'ailleurs un goût des rêves dans les traités des songes qui peut être interprété par vous en tant qu'historienne aujourd'hui.
Oui, mais en fait, ce serait même plutôt l'inverse. C'est plutôt les représentations de la... Enfin, c'est la hiérarchie des sens qui se retrouve dans les clés des songes, puisqu'il y a beaucoup de traités hein, qui parlent des sens et de leur hiérarchie. On discute de leur nombre, même, du nombre des sens. Et effectivement, ça peut se retrouver dans le sens où il y a des sensorialités qui sont considérées comme basses, comme les sens de contact, le toucher, le goût, qu'on va retrouver beaucoup, de manière beaucoup moins présente dans les clés des songes.
Et parfois, on peut trouver, par exemple, avoir senti des fleurs dans son rêve. Ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi. Ça peut être positif si ce sont des fleurs de saison, mais si ce sont des fleurs hors saison... Donc, ça peut avoir un sens négatif.
Et on se retrouve, encore une fois, conforté à l'idée de la norme, que ce soit la norme naturelle ou la norme sociale. Des fleurs qui sont hors saison, là, le sens va s'inverser et devenir négatif, effectivement.
C'est l'empêchement dans son travail, dans son entreprise. Enfin, on n'est pas très loin d'une sorte d'astrologie qui serait traduite par la question des rêves.
De manière générale, il y a toute une série d'interprétations qui vont aussi donner des indices sur ce qui motive, ce qui peut intéresser les gens à la période.
Gisèle Besson.
Récalme de Schoenthal rêve aussi d'avoir senti le parfum des fleurs et lui le voit comme une espèce de vision paradisiaque, quelque chose de très positif.
Anaïs Quin.
Finalement, à vous entendre, on entend bien aussi que ces récits de rêve, en tout cas, nous permettent aussi de voir cette hiérarchie des sources d'informations sur l'univers qui entoure les rêveurs, quelle que soit la nature de ces informations, d'une certaine façon aussi, Juliette Lancel.
Effectivement, on peut le retrouver et c'est forcément représentatif des connaissances du temps. Il y a une adaptation qui se fait, alors parfois avec un décalage, hein, mais il y a une adaptation qui se fait en fonction des connaissances de la période. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est de voir que dans les clés des songes actuelles d'aujourd'hui, je me suis amusée à aller les voir, et il y a une incorporation de l'inconscient, de théorie freudienne, mais tout en portant en même temps un message divinatoire.
Ah, vous voulez dire qu'aujourd'hui, on continue à avoir des clés des songes qui sont publiées, et que ces clés des songes ont fait le travail tranquille d'incorporation des notions qui sont nées entre le 18e et le 19e siècle et aujourd'hui.
Avec finalement les mêmes procédés rhétoriques qu'on peut trouver au 17e siècle, en expliquant que, bien sûr, les connaissances, le savoir évolue et qu'on est moderne, mais que finalement tout ça, c'est une autre manière de justifier l'existence des clés des songes.
Alors, on voit bien combien avec vous, Gisèle Besson et Juliette Lancel, et on le verra aussi demain, j'imagine, avec Jacqueline Carrois, ce terrain est un terrain fertile pour les historiennes et les historiens. Gisèle Besson, on voit bien qu'il y a possibilité, en reprenant cette longue histoire des rêves et des cauchemars, même si le terme n'existe pas au Moyen-Âge, vous nous l'avez expliqué, eh bien, de faire un nouveau travail sur les sociétés qui portent ces rêves et qui portent ces cauchemars.
Oui, c'est un sujet effectivement qui offre toutes sortes d'intérêts et de possibilités d'évolution en fonction de ce qu'on disait tout à l'heure sur la médecine. Par exemple, je vois la différence avec le Moyen-Âge où tout ce qui concerne le corps est évacué comme sans intérêt.
Et donc, on attend avec impatience la fin de votre thèse, Juliette Lancel. C'est pour quand ?
Pour bientôt, j'espère, le plus vite possible.
Et d'ici là, on peut vous suivre sur le réseau Twitter. Vous avez un hashtag, comme on dit, ou un nom de...
J'ai un compte Twitter, c'est Oniromani. Et effectivement, ça m'arrive de parler de colloques, de séminaires.
Donc si on veut suivre ce qui se fait dans ce domaine, on vous suit sur le réseau Twitter. Je rappelle que vous êtes la co-auteure donc, avec Jacqueline Carroix, qui sera notre invitée demain, de Clé des songes et sciences des rêves. C'est publié aux Belles Lettres l'année dernière. Et que vous êtes là aussi la co-auteur, Gisèle Besson, avec Jean-Claude Schmitt, chez Anacarsis, de Rêver de soi, les songes autobiographiques au Moyen-Âge. Merci à toutes les deux.
Merci.
Et on se retrouve demain, Anaïs Quin.
Oui, demain, avec Jacqueline Carroix, puisque vous l'avez cité plusieurs fois, Emmanuel, mais également avec Andreas Mayer et Hervé Mazurel, pour peut-être prendre un petit peu de distance et voir ce que la psychanalyse entretient comme rapport souvent douloureux avec l'histoire.
Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Pierrick Monsigny nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Françoise Camard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Et puisque Oniromani, c'est le nom de Juliette Lancel sur Twitter, notre adresse à nous, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.